Vivre FM Podcast. Vous écoutez La vie des associations sur Vivre FM.
La vie des associations sur Vivre FM reçoit aujourd'hui le CERTAM, le Centre d'évaluation des recherches et de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants. Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour Benjamin. Bonjour.
Merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un salon que vous avez visité en long, en large et en travers pendant une semaine, qui est le salon ATIA. Et c'est un salon qui s'est déroulé aux États-Unis, très précisément à Orlando. Qu'est-ce que c'est que ce salon ATIA ?
Alors oui, on va peut-être d'abord un petit peu préciser de quoi il s'agit. Mm-hmm. ATIA, c'est Assistive Technology Industry Association. C'est une association qui est considérée comme étant l'association mondiale des fabricants d'aide technique, qui organise donc un salon très important tous les ans à Orlando. Donc Orlando en Floride, donc sur la côte est des États-Unis, et qui rassemble, je dirais, peu ou prou tous les fabricants d'aide technique, en tout cas présents sur le sol américain. Donc évidemment, il y en a vraiment beaucoup. Donc avec un salon d'exposition de matériel, de logiciel, et également l'organisation de tout un tas de conférences qui sont dédiées. Soit aux utilisateurs d'aide technique eux-mêmes, soit aux gens qui les accompagnent, aux enseignants, aux ergothérapeutes, bref, à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux aides techniques. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble le CISON qui, lui, se déroule à San Diego sur la côte ouest. C'est un peu l'équivalent, mais donc sur la côte est. Donc il y a deux gros salons aux États-Unis concernant les aides techniques. ATIA à Orlando, où nous nous sommes rendus donc fin janvier, et dont on va vous parler aujourd'hui. Et un autre salon qui, lui, se déroule à San Diego sur la côte ouest en Californie, qui, lui, cette année, va avoir lieu courant mars, mais auquel nous n'irons pas.
Globalement, ce salon, il vous a plu ? J'allais dire, il recelait beaucoup de nouveaux.
Déjà, ce qui nous a plu, c'était de rencontrer des acteurs complètement différents, puisque, encore une fois, comme c'est sur la côte est, ça draine un public différent de celui qu'on a l'habitude de rencontrer sur la côte ouest. Mm-hmm. C'est un salon qui est assez orienté éducation, mais qui, du coup, permet d'organiser des conférences centrées sur la scolarisation des personnes handicapées, sur l'accompagnement des personnes handicapées dans le milieu même universitaire. On a vu des choses assez étonnantes, en tout cas dont on entend assez peu parler, sur comment peut-on donner accès aux sciences aux personnes handicapées en milieu universitaire, comment peut-on adapter certains appareils de mesure, comment on peut organiser tout ça pour que l'enseignement puisse être accessible à tous. Et au-delà de ça, évidemment, il y a, je dirais, le cadre beaucoup plus général de comment une personne handicapée peut accéder à son autonomie, à l'information, à la communication, à travers différentes aides techniques. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ce salon est multi-handicap, c'est-à-dire qu'il n'est pas centré sur la déficience visuelle. Évidemment, nous, ce qu'on a couvert avec Jean-Pierre pour l'association Valentin Huy, c'est le handicap visuel, mais il faut savoir qu'il y avait aussi une importante mobilisation de la communauté 10, donc on a rencontré pas mal de gens qui œuvraient dans le domaine de la dyslexie, de la dyspraxie par exemple, et aussi beaucoup d'acteurs autour d'autres handicaps sensoriels comme le handicap auditif et le handicap moteur.
Ça veut dire que vous avez pu rencontrer également des fabricants français ou des spécialistes, par exemple des 10 ou des spécialistes de différents handicaps. Alors, qui se sont donné rendez-vous au sein de ce salon ATIA ?
Français, malheureusement, on doit dire que non. Je dirais qu'on était sans doute dans les rares français à avoir fait ce déplacement, tant en tant que visiteur qu'en tant qu'exposant. Exposant, d'ailleurs, cette année, je pense ne pas me tromper en me disant qu'il n'y avait aucun exposant français. En revanche, on a croisé des fabricants, alors soit français, soit basés en France, qui n'est pas tout à fait pareil, qui faisaient ce déplacement. On a notamment vu notre collègue Nicolas Mazard, qui travaille pour la société Acapella, donc qui fabrique des synthèses vocales, qui, lui, est présent tant sur le marché des aides techniques pour personnes handicapées visuelles que sur le marché plus général des aides techniques pour accéder à la communication, notamment justement pour les publics dyslexiques.
Ce salon a duré une semaine. En une semaine, on a le temps de faire le tour du salon. Au contraire, on a beaucoup trop de temps et finalement, on avait profité, je sais pas, pour aller vous balader pour au-delà, bien que Orlando ne soit pas forcément la ville la plus facile à parcourir quand on n'a que ses deux pieds.
Alors, effectivement, bon, le sujet, c'était quand même de vraiment couvrir les aspects liés à la déficience visuelle.
Imagine.
On ne s'est pas spécialement baladé. Et effectivement, comme vous le mentionniez, Benjamin, ce n'est pas forcément le genre de ville. Sauf si on apprécie les parcs d'attraction, mais ce n'est pas forcément le genre de ville. Oui. On a vraiment envie d'aller passer ses vacances. Après, sur le salon en lui-même, oui, en une semaine, concernant le handicap visuel, on a eu le temps... même, je dirais, de discuter posément avec l'ensemble des fabricants, ce qu'on va essayer de vous retranscrire ce matin. Et puis, il y a aussi tout l'aspect conférence qu'on va aborder avec vous, parce qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes là de gens qui exposaient sur un sujet donné, sur une petite heure, pour soit montrer de nouveaux projets, soit au contraire faire état de certaines recherches. Et ça, c'était vraiment très intéressant aussi.
Alors, on a jeté un premier éclairage sur ce salon à Tia. Évidemment, on est là pour continuer. Hein. On va parler des conférences, on va parler des différentes technologies que vous avez rencontrées, des différents appareils. On va le faire après tout.
La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Le CERTAM est avec nous. Le CERTAM, c'est le Centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants. Et Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini sont venus nous parler du salon Akia. Et alors, vous êtes intéressé, parce que vous le disiez, hein, le salon ne s'est pas intéressé qu'à ça, mais vous êtes intéressé qu'à la déficience visuelle, et plus particulièrement, là, en l'occurrence, au braille, tout ce qui se faisait concernant les nouvelles technologies pour le braille. Bah, il y a des nouveautés, là?
Alors, on s'est intéressé à tous les aspects liés à la déficience visuelle, effectivement. On va commencer peut-être par parler du braille. Eh bien, non. C'est effectivement peut-être un regret, entre guillemets. On n'a pas vraiment vu de nouveautés concernant le braille. On a vu, évidemment, tous les appareils qu'on connaît déjà en France. Hein. Chez Humanware, on a vu le BrailleNote Apex, dont on a publié une évaluation sur notre site internet que je rementionne à l'intention de nos auditeurs, www.certam-avh.com, donc où ils pourront retrouver une fiche d'évaluation complète sur ce produit, avec bon, une petite évolution au niveau du logiciel qui était présenté mais qu'on connaissait déjà et qui nous impacte pas, nous, public francophone, qui est la mise en place d'un module pour gérer tout ce qui est braille mathématique américain, puisque vous savez, Benjamin, qu'on n'a pas le même code braille concernant tout ce qui est sciences et mathématiques d'un côté et de l'autre de l'Atlantique.
Ça ne va pas simplifier les choses, ça, mais ça veut dire que quand même... On risque un jour de retrouver ce plus.
Il faut pas, en tout cas avec notre code braille mathématique européen, il faudrait qu'il fasse un certain nombre d'aménagements.
Il faudra qu'on fasse des aménagements, nous, alors qu'on aille plutôt vers ce qui se fait aux États-Unis, c'est ça ?
Je suis pas sûr qu'on aille vers ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des fabricants de Black Note qui commencent à prendre ça en compte, ce qui est plutôt intéressant. Donc on a vu ce produit, mais qu'on connaissait déjà. Chez HIMSS, acteur coréen, on a vu là aussi des bloc-notes qu'on connaît, dont le tout dernier BrailleSense U2 Mini, qui est un bloc-notes braille de 18 cellules, très compact, avec beaucoup de fonctionnalités, y compris des fonctionnalités connectées, comme des gestions de Dropbox, des choses comme ça. On est d'ailleurs en train de préparer une fiche d'évaluation sur le produit qui devrait sans doute être publiée courant mars. Donc on vous invite
à suivre
la chose sur l'actualité de notre site web. Et ensuite d'autres produits comme les plages braille de chez Freedom Scientific qu'on a pu voir pour la première fois, en tout cas moi en ce qui me concerne, en version 80 caractères, ce qui était assez... assez impressionnant, et du matériel comme... les plages braille du fabricant néerlandais Optelec, pareil, que vous pouvez retrouver sur le site web du CERTAM en évaluation. Et je dirais que voilà pour le braille. On a vu aussi Baume, qui d'ailleurs au passage a ouvert une antenne aux États-Unis et qui présentait là aussi l'ensemble de sa gamme de bloc-notes et de plages braille. Donc vraiment, je dirais pas vraiment de nouveauté braille.
Rien de nouveau sous le soleil.
Non, plus une façon de remettre un peu en valeur l'ensemble des bloc-notes, l'ensemble des plages braille, réaffirmer le fait que le braille est un facteur d'intégration, en particulier en milieu scolaire, ce qui est important. La tendance, par contre, ce qui est peut-être important à noter, c'est que là où avant on voyait énormément de bloc-notes avec des fonctions dédiées, on commence à sentir aussi un discours qui nous vient clairement des États-Unis, qui est de dire l'éducatif s'empare de tout ce qui est iPad et iPhone, et donc les fabricants de matériel braille fabriquent de plus en plus des matériels qui sont connectés et qui vont permettre de piloter un iPhone ou un iPad. Ce qui fait qu'en fait, on va déporter l'intelligence dans les iPads et iPhones, et finalement, les appareils Braille vont être de plus en plus basiques, c'est-à-dire où il y aura juste un afficheur et un clavier et aucune intelligence embarquée. Et ça, on sent que c'est une vraie tendance chez les fabricants de Braille en général, de dire bon bah aujourd'hui on n'a plus besoin de mettre autant de fonctions dans nos bloc-notes, on met quelques fonctions par-ci par-là,
et on fait que ça se connecte avec les iPhones et autres.
Voilà, il faut savoir que les tablettes, en particulier les iPads, hein, c'est pas un parti pris de la part du CERTAM, là c'est qu'on l'a vu et revu et re-revu, y compris dans les conférences dont on vous parlera sans doute tout à l'heure. Les iPads sont extrêmement présents dans le milieu de l'éducation américaine. C'est vraiment pour les aides techniques, sans doute la technique la plus mise en avant pour intégrer les publics handicapés et en particulier les publics handicapés visuels.
Alors on va passer au lecteur d'écran, hein. Je présume que on est pas si loin, hein. Vous parliez des tablettes, effectivement, et je pense que c'est bien qu'on aille vers ça.
Alors les lecteurs d'écran, bon, je vais faire un peu l'impasse sur les lecteurs d'écran qu'on connaît déjà, comme JAWS de Freedom Scientific, où on présentait la version 15 qui rend l'exploitation des tablettes Surface relativement possible. Dans la grosse annonce, là par contre, il y a eu une vraie annonce qu'on avait déjà anticipée, mais c'est vrai que ça bruissait beaucoup autour de ça, c'est que Microsoft, qui n'avait pas jusqu'à présent de lecteur d'écran embarqué, on parlait beaucoup du Narrator, mais bon, on était quand même beaucoup à penser que c'était une couche relativement minimale pour accéder à Windows, et ça permettait pas forcément de faire beaucoup de choses. Microsoft a passé un accord avec la firme GW Micro, qui édite le logiciel Windows Eyes, qui est donc un lecteur d'écran, concurrent de JAWS par exemple, et en explicitant le fait que lorsque les gens avaient une licence d'Office 2010, donc du pack Office 2010 ou supérieur, la licence d'exploitation de Windows Eyes était gratuite. Alors du coup, effectivement, c'est sans doute l'une des infos qui tournait le plus, parce qu'on sentait bien que là, les gens se disaient « Oh là là, mais alors là, du coup, il y a un lecteur d'écran qui est gratuit, alors qu'avant, c'était payant pour les gens qui ont Office. Est-ce que ça va impacter les différents marchés? Comment les gens vont s'emparer de ça ?» On s'est même fait prendre à partie en disant « Mais alors, est-ce qu'en France, ça marche bien ?» Et ça reste une des interrogations et une des grosses annonces, en tout cas, de ce salon.
Bon, si vous le voulez bien, puisque vous parliez de micro, on va les éteindre, les micros, pour laisser passer de la chanson, et on vient juste après.
La vie des associations, jusqu'à 11h, sur Vivre FM.
Nous sommes aujourd'hui sur Vivre FM avec le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies pour les aveugles et les malvoyants. Et nous parlons, enfin quand je dis nous, c'est plutôt Jean-Pierre Carpanini et Fernando Pinto da Silva qui nous parlent de ce qu'ils ont vu au dernier salon ATIA à Orlando. On était en train de parler des lecteurs d'écran, il y a encore quelques petites choses à dire les concernant?
Oui, quelques bricoles. Donc on vient de parler de Windows Eyes et GW Micro. On peut évoquer, même si pour l'instant c'est pas disponible pour le marché francophone, les développements du lecteur d'écran développé par Baume, qui s'appelle Cobra, qui est un lecteur d'écran qui est très orienté sur le braille. Donc ça, c'est assez intéressant, mais pour l'instant c'est pas encore disponible en français. On espère que ça le sera dans les mois qui viennent.
À suivre.
Et également parler d'un autre lecteur d'écran que certains connaissent, qui s'appelle Supernova, qui lui est développé par la firme anglaise Dolphin, qui lui est un lecteur d'écran un peu tout en un, puisqu'il y a l'aspect purement lecteur d'écran, synthèse vocale et gestion des périphériques Braille, mais également tout ce qui est base vision avec un logiciel d'agrandissement. Donc là, on a un produit qui continue à évoluer et sur lequel on est d'ailleurs en train de plancher, de réaliser une évaluation qui sera bientôt disponible sur notre site internet.
Et pendant que vous allez continuer de plancher, c'est Jean-Pierre Carpanini qui va plancher, lui?
Je pense qu'on va rester chez Dolphin et parler un petit peu de ce qu'ils font, effectivement, dans d'autres domaines, oui.
Jean-Pierre.
Alors, effectivement, il y a l'évolution constante du logiciel Supernova, qui, comme l'indiquait Fernando, se décline en version lecteur d'écran, logiciel d'agrandissement, ou une version complète avec lecteur d'écran et agrandissement d'écran. Donc, les dernières versions sont maintenant compatibles avec Windows 8.1. Et on a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure des mises à jour. Un autre produit, effectivement, que l'on a pu voir sur le stand de Dolphin, c'est le logiciel Guide. Donc le logiciel guide, c'est un intégré en quelque sorte, puisque c'est un programme qu'on installe sur un ordinateur, et on peut démarrer l'ordinateur directement sur l'interface de guide. Donc ce logiciel qui s'adresse plus particulièrement aux personnes les moins technophiles.
C'est ça, qui facilite grandement l'utilisation de l'ordinateur.
Ça facilite.
J'ai testé pour vous et c'est vrai. Hein.
Oui, c'est un logiciel.
Moi, je peux en parler savamment.
C'est un logiciel par ailleurs qu'on avait évalué et on était venu d'ailleurs sur Vivre FM pour en parler. Mm-hmm. Donc il y a une toute nouvelle version qui est la version 8 qui apporte là aussi de nouvelles fonctionnalités, des améliorations.
Ça progresse encore. On peut encore faciliter l'utilisation de l'ordinateur pour les moins aguerris.
Alors, d'une part, on facilite, mais aussi on ajoute des fonctionnalités. Donc, je rappelle que Guide, évidemment, c'est des fonctions, les fonctions un petit peu, je dirais, basiques de l'informatique. Mmh. Hein, rédiger un courrier, lire un texte, pouvoir envoyer, recevoir ses mails, donc pouvoir utiliser un scanner pour faire de la reconnaissance de caractère, pouvoir écouter des web radios, recevoir des podcasts, etc. Donc c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont parmi les fonctionnalités les plus courantes de l'informatique et du web que Dolphin donc a simplifié au maximum. Donc ce sont des interfaces qui sont textuelles, qui peuvent être dont on peut modifier évidemment le taux d'agrandissement et les couleurs d'affichage, et on a une sonorisation par une synthèse vocale française qualitative qui va nous permettre d'avoir un suivi vocal complet de toutes les applications et de toutes les fonctions du programme Guide.
Et on va pouvoir justement avoir d'autres des fonctionnalités supplémentaires. Alors, par rapport à ce qui existait.
Pour l'instant, on vient tout juste de recevoir la version française. Donc là, sur le salon Atia, on a eu l'annonce de cette version 8. On a pu le voir dans le cadre d'une démonstration sur un salon fonctionner. Donc les seules choses qu'on a pu voir, mais qui sont vraiment très très incomplètes par rapport à une évaluation comme on peut la faire au CERTAM, c'est que l'interface a quelque peu changé. On a des petites icônes qui sont mises devant chaque option. Un look, je dirais, un petit peu différent et qui peut être plus agréable pour les personnes malvoyantes. Au niveau des fonctionnalités, on attendra une évaluation plus complète par notre service.
Vous allez décortiquer tout ça.
Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est quand même une compatibilité avec les tout derniers systèmes d'exploitation, puisqu'évidemment, comme le système évolue comme Windows 8.1, il faut que Guide suive et soit compatible. Ce qui fait que du coup, ça fait aussi partie des choses qui sont mises à jour, c'est-à-dire pouvoir garantir à l'utilisateur le fait de pouvoir l'installer, y compris sur des postes récents.
C'est un petit peu la même chose qu'avec le logiciel Supernova, où effectivement, avec la version de Windows 8, puis récemment de la version de la grosse mise à jour en Windows 8.1, il faut que les logiciels, les aides techniques s'adaptent. Et là, c'est le cas. Dolphin adapte ses programmes aux nouvelles versions de Windows. Donc voilà, sur le stand de Dolphin, c'était les principaux produits qui étaient démontrés, et Guide était vraiment mis en avant au salon Atia.
Un autre logiciel, peut-être après une chanson, hein, après de la musique, parce que ça fait du bien de respirer également. On respire et on retrouve Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini du CERTAM qui nous parlent du dernier salon Atia, salon qu'ils ont visité, mieux que ça, hein, ils sont restés au sein de ce salon pendant une semaine et c'était un voyage.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Aujourd'hui, dans la vie des associations sur Vivre FM, place au CERTAM, le centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Aujourd'hui, nous parcourons le salon Atia, que vous avez parcouru vous-même pendant une semaine. C'était à Orlando. Alors, d'autres nouveautés que vous avez pu apprécier au sein de ce salon?
Alors, en produit basse vision, oui, on a vu quelques petites choses, quelques petites nouvelles choses, notamment sur le site d'Humanware, donc le fabricant canadien. On a pu voir le Prodigy Desktop, qui est une autre version du Prodigy Duo, un téléagrandisseur qui a été évaluée récemment par le CERTAM et dont l'affiche est disponible sur le site. Donc la version Prodigy du desktop, c'est en gros la même chose, mais sans tablette. La tablette est en quelque sorte fixée sur le téléagrandisseur, et donc on a une utilisation qui est une utilisation fixe et pas une utilisation fixe et mobile. Autre produit qui nous a paru très très prometteur et très intéressant, qui est fabriqué par ABC. Donc c'est une machine à lire assez nouvelle dans sa conception. Donc c'est un produit qui est tout léger, ça fait un petit peu moins d'un kilo 6. Toujours avec, comme on l'a pu le remarquer depuis quelques années, les machines à lire n'utilisent plus de système de scanner à plat. Donc on a plutôt une caméra qui va prendre une image de la page, capturer une image de la page, et ensuite on a un traitement OCR et puis une lecture par une synthèse vocale de qualité. La différence, c'est la légèreté du produit, le fait que l'appareil intègre un écran. Donc on a un écran LCD qui va permettre aux personnes malvoyantes d'avoir une lecture soit audio et visuelle. Sur cette lecture visuelle, évidemment, on peut modifier la taille des caractères et on va pouvoir modifier les couleurs d'affichage. Donc ça, c'est un produit assez récent. Il est léger, facilement transportable, autonome au niveau batterie. Et ils ont en plus ajouté certaines fonctions qui sont très intéressantes. On a la possibilité, il y a une connexion Wi-Fi possible avec cet appareil, et un utilisateur peut envoyer et recevoir, par exemple, des emails. Et tout ça de façon extrêmement simplifiée, hein, puisqu'on a très très peu de boutons sur l'appareil qui sont facilement identifiables. Et pour prendre l'exemple de l'envoi et de la réception des mails, l'envoi des mails se fait par rapport à des adresses qui ont été préenregistrées. Donc il faut qu'une tierce personne un petit peu plus technophile puisse intégrer ces nouvelles adresses d'envoi. Et l'utilisateur va pouvoir répondre à un mail soit en prenant une image de la page, d'une page papier, grâce à la caméra de l'appareil, soit en enregistrant un message audio. Donc grâce au microphone intégré. Donc une personne âgée, par exemple, qui n'est pas habituée à l'utilisation des produits technophiles, va pouvoir utiliser cet appareil très facilement. Mmh. Donc ça, c'est un des premiers produits assez innovants. On a vu également sur le stand de IMS une caméra qui s'appelle Liboot, E-BOT, et qui va permettre une connexion. Donc c'était une caméra pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, donc qui est connectable à un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, ou une tablette. Mmh.
Pardonnez-moi, mais une caméra pour une personne aveugle, ça sert à quoi ?
Alors c'est le même principe. La caméra va servir soit à un agrandissement pour les personnes malvoyantes, un agrandissement d'un texte papier, soit pour les personnes non-voyantes, on va pouvoir faire une reconnaissance de caractère et lire le contenu de.
En fait, transformer pratiquement, par exemple, un iPad en machine à lire.
C'est effectivement l'objectif, c'est d'avoir soit sur une plateforme fixe un ordinateur PC ou Mac, soit sur une plateforme mobile comme un iPad ou une plateforme Android, la possibilité d'avoir une machine à lire.
D'accord.
Aussi bien en lecture pour les personnes malvoyantes, lecture visuelle, qu'en lecture audio pour les personnes non voyantes. Mmh. Donc là, on est sur un produit qui est tout à fait récent, qui devrait être normalement commercialisé en France. Pour le produit d'ABC, là aussi, on pense que le produit devrait être francisé.
La machine à lire dont vous nous parliez tout à l'heure.
Tout à l'heure, tout à fait, devrait être commercialisé également sur le marché français. Voilà, en gros, c'est vraiment sur les produits, les nouveautés qu'on a pu constater. Sur le site de Zoom Max également, on a pu voir le Zoom Max No 7 HD. Donc c'est une loupe électronique portable avec un écran de 7 pouces. Ce produit-là, il avait été annoncé lors du salon du CILMO. Auquel on avait assisté en 2013, mais on n'avait pas pu le voir. Et là, effectivement, il est sorti, il est fonctionnel. Donc on a pu vérifier son fonctionnement, ses possibilités. Donc produit portable, vision de près, vision de loin. C'est un produit très très similaire au produit I Love You 7 HD qu'on avait pu évaluer en son temps et qui est disponible sur le site du CERTAM.
Jean-Pierre Carpanini du CERTAM qui nous parle avec Fernando Pinto da Silva des nouveautés qu'ils ont pu voir tous les deux au sein du salon Atia qui s'est déroulé à Orlando il y a de cela quelques semaines. On les retrouve juste après.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie du CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants. Jean-Pierre Carpanini et Fernando Pinto da Silva sont avec nous pour nous parler des dernières nouveautés qu'ils ont pu voir au sein de ce salon Atia à Orlando, qui s'est passé il y a quelques semaines à peine. Fernando, je sais que vous souhaitiez revenir sur l'iPad, parce qu'il y a des nouveautés qui concernent l'iPad.
Oui, en fait, bon, on a beaucoup parlé de matériel, on a essayé de vous faire faire un petit tour dans les allées du salon, on aurait pu évoquer encore d'autres choses comme les lecteurs des signes, etc. Mais c'est vrai que pour terminer notre temps de parole d'aujourd'hui, on voulait revenir rapidement sur les conférences parce que ce sont des temps vraiment très importants autour de ces salons. Et j'ai mentionné tout à l'heure le fait que l'iPad est extrêmement présent dans le domaine de l'éducation. Il faut savoir qu'on a assisté à ce qu'ils appellent un bootcamp de 2 jours consacré uniquement à l'iPad. Donc 2 jours de conférence que sur ça, c'est déjà pour vous donner un peu l'idée de la place prépondérante que ça peut avoir dans les aides techniques pour tous les handicaps d'ailleurs, hein. C'était pas que centré sur le handicap visuel, c'était pour tous les handicaps. Et là on avait quelqu'un qui maîtrisait vraiment le sujet, qui fabriquait même des coques pour protéger les iPads, des ceintures pour pouvoir trimballer l'iPad.
Ah oui,
c'était assez impressionnant. Vous retrouverez d'ailleurs tout ce qu'on est en train de vous raconter et même plus sur notre site web, puisqu'on va publier courant mars là aussi un dossier sur Atia où il y aura tous les liens qui mènent vers des vidéos, qui mènent vers des présentations, qui mènent vers d'autres contenus pour enrichir tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé une information, vous pourrez la retrouver sur www.certam-avh.com dans le courant du mois prochain.
Alors pour revenir à l'iPad par exemple, on imagine c'est le compagnon du jour, de la nuit, de tout le temps, quoi. En fait, on peut plus s'en passer, il faut qu'on l'ait partout tout le temps.
Ben, ça ressemblait un peu à ça, mais c'était assez didactique. C'est-à-dire que l'idée, c'était aussi de dire qu'un iPad, c'est quand même globalement fragile. C'est très puissant, mais c'est assez fragile. Donc comment on peut le protéger? Parce que si on le confie à des élèves qui sont en intégration, il faut pouvoir le protéger. Là, il y avait par exemple la démonstration d'une coque. Ça nous a assez impressionné, Jean-Pierre et moi, où en fait la personne qui faisait cette conférence, Thérèse Wilcom, a pris l'iPad qui était protégé par cette coque et l'a jeté par terre.
Ah oui, youpi.
Donc pour montrer quand même que voilà. Donc il y avait des choses assez étonnantes, beaucoup de démonstrations d'applications, certaines qu'on connaissait déjà. Peut-être d'ailleurs revenir sur cette application en particulier qui s'appelle Voice Dream, qui est une application de lecture qu'on peut installer sur iPad, iPhone, iPod Touch, qui est une application développée par un Américain qui permet de charger des EPUB, des livres DAISY, des livres MP3. On a eu d'ailleurs la chance de rencontrer ce développeur qui était extrêmement demandeur de retour sur l'utilisation de son logiciel, qui d'ailleurs est en train d'annoncer une grosse mise à jour pour la prise en compte d'autres formats. Et ça, c'est assez plaisant aussi, parce que c'est vrai que ce sont des initiatives individuelles qui nous facilitent grandement la vie en général pour accéder à la lecture, par exemple, sur ce genre de produits.
D'ores et déjà, c'est accessible, ça, pour nous, par exemple, en France
Tout à fait, oui. Ouais. Vous pouvez vous la procurer sur l'App Store. Elle est disponible. On peut acheter des voix supplémentaires si on souhaite avoir des voix de qualité en français. Mmh. Enfin, non, c'est tout à fait disponible. Et je vous dis, il y a une mise à jour, une grosse mise à jour, qui devrait sortir là dans les jours qui viennent. Pour finir sur les conférences, on ne pourra pas évidemment tout aborder. Peut-être parler un peu des QR codes. On a assisté à une conférence vraiment très bien faite sur le rôle des QR codes. Alors qu'est-ce qu'un QR code?
Oui, mais merci de préciser.
Mais je vous connais, Benjamin.
C'est gentil.
Je sais bien que vous alliez me poser cette question. Donc un QR code, c'est un code barre qu'on appelle bidimensionnel. Ça ressemble un petit peu, je grossis le trait, mais ça fait comme une espèce de forme de damier parfois. C'est en fait un code barre dans lequel on va pouvoir mettre énormément d'informations qu'on va pouvoir capturer avec un téléphone mobile, une tablette. Pour vous donner une application concrète, par exemple, Jean-Pierre et moi, sur nos cartes de visite, maintenant, au verso de la carte, il y a ce petit machin,
ce petit code barre, voilà, ce QR code.
Ce code barre, mais qui est bidimensionnel, hein, donc vraiment sur deux dimensions. Et lorsque quelqu'un capture ce QR code, il va avoir toute notre carte de visite qui va s'insérer automatiquement dans son téléphone ou dans sa tablette. Ce qui fait que du coup, notre information est accessible à tous, quelle que soit la modalité.
C'est ça, vous tendez la carte de visite à quelqu'un, et il saisit ce QR code via son iPhone par exemple.
Tout à fait.
Et il sait tout de vous, tous les codes, tout
exactement,
ce que vous avez.
Exactement, il a toutes nos informations, il peut nous contacter. Et là, on a eu vraiment une conférence que je qualifierais de magistrale sur l'utilisation des QR codes, y compris dans le domaine éducatif. Mais vous retrouverez tout ça sur notre site web, je l'espère, courant du mois de mars. Je rappelle peut-être nos coordonnées pour conclure.
Ah ben oui, bien sûr.
Donc le CERTAM, Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour les aveugles et les malvoyants. Je rappelle que c'est un service de l'association Valentin 8, 6 au 5 rue du Roc à Paris, dans le 7e arrondissement. Et vous rappelez également que vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 44 49 27 27 ou sur notre site web www.certam-avh.com.
J'aime bien entendre parler Fernando Pinto da Silva qui dit que la maison est sise et qui dit peu ou prou. Voilà, ça fait parler français. C'est bien, Fernando. Merci Jean-Pierre Carpanini également. Merci de l'avoir accompagné. Merci à vous et rendez-vous au mois prochain. On compte sur vous.
On sera là.